RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket à télécharger le mardi sur rmc.fr. Alors selon notre état de forme, c'est vers 13-14h ou 16h-17h. Hein. Ça dépend des semaines, ça dépend de la réactivité des équipes. Stephen Brun, Sacha, Alix et Fred Weiss. Bonjour messieurs.
Salut mon petit Pierrot.
Bonjour.
C'est un spécial crise à Dallas. Voilà, c'est pas un spécial Dallas Mavericks, c'est un spécial crise à Dallas. C'est la crise dans ton club, Stephen.
Ouais, petite crisette.
On a beaucoup parlé de Dallas cette saison. Signe que quand une méga star signe quelque part, et ben voilà, hein, ça attire les médias tout simplement parce que Dallas, historiquement dans Basket Time, c'est pas la franchise dont on parle le plus. Cette année, c'est incroyable tout ce qui s'y passe.
Après, on parle beaucoup de Dallas à cause de Luka Doncic aussi.
Exactement, c'est ce que je veux dire.
Oui, oui, oui.
Et donc, c'est un spécial Doncic Mavericks parce que désormais, Dallas, c'est Doncic.
Moi, c'est Nowitzki encore un peu quand même.
Ça aurait pu être Irving, mais la greffe ne prend pas. Et on va parler de cela. Dallas en danger, les Mavs vont-ils s'en sortir? Voilà, je voudrais un débat avec de l'objectivité, s'il vous plaît. Sacha et Fred, je compte sur vous.
Avec plaisir.
Mais on est là pour ça, parce que c'est pas Stephen qui sera objectif, c'est sûr. Donc.
Et puis, bien sûr, on va revenir sur cette association Doncic-Irving. Le duo était-il voué à l'échec? Ça, on va en parler dans un deuxième temps et dans la partie historique. Vous choisirez un duo qui n'a pas fonctionné. Un grand duo, là, on ne parle pas des Big Three, parce que des Big Three, il y en a beaucoup, mais il y a des duos. Avant d'être trois, souvent, ils étaient
Dorian,
deux.
Dorian Parker, dans le Tipeee Show, ça n'a pas fonctionné. Gros.
Ah, ça a fonctionné un temps. Ça a fonctionné un temps. Le duo a été séparé et reformé. Et là, ce n'était plus la même histoire, comme souvent.
Hein. Mais qui a pris le leadership alors, Tipeee ou Pierre?
T'as une petite idée, non? Le problème, c'est que le six-man, François Giuseppe, était là pour foutre le bordel. Au lieu de mettre de l'huile dans les rouages.
Et puis, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas un grand coach.
Non, le coach Ludo Languet, trop stressé, il a pété trop de briquets et de stylos, de stress. Ah mais on peut faire une parenthèse sur cette émission qui était à Novni quand même.
T'as vécu une belle époque. Hein.
Ah, très belle époque.
Tu t'es retrouvé avec Fadjo au téléphone.
On s'est régalé avec Jules et Ludo, mais c'était un stress d'organisation pour Ludo Languet. Parce qu'il calait des mecs aux États-Unis, des mecs qui n'avaient rien à cirer de rien.
Et puis là, c'est compliqué de préparer un conduit, parce que tu ne savais pas qui allait être là.
À la dernière minute, ça changeait.
Qu'est-ce que tu lui as dit à Fadjo?
Fadjo, je suis même plus.
Hi, Fat.
How are you, Fat?
What's love, my man?
Do you know Steve, are you Fat, Joe?
Non, par contre, grand moment avec DJ Cut Killer, avec Thierry Henry, avec Jean Reno.
T'as pas eu un joueur dans le bus des Spurs?
Si, non, un jour, on a fait une émission en direct du bus des Spurs fantastique. Il nous avait passé, donc il y avait Boris. Je crois qu'il nous avait passé...
Duncan
et Bruce Bowen. Et je me demande même si on n'avait pas fait un assistant coach ou Popovic ce jour-là. Bref,
c'est ouf,
il y a eu des émissions mythiques. Bravo. On referme la parenthèse car on va parler de Dallas. Donc dans la partie historique, vous choisirez un duo qui n'a pas fonctionné. Je sais pas, par exemple, le duo Fred Weiss-Rigaudot, par exemple.
Médaille d'argent, c'est vrai qu'il a pas fonctionné du tout.
C'était pour te réveiller un peu, Fred. Et puis le quiz.
Mais alors, je suis réveillé, t'inquiète.
Le quiz, c'est un quiz sur Dallas. Je ne vous en dis pas plus.
Dallas, la ville.
Et Steve peut jouer.
Mais il ne sera pas plus avantagé que ça, vous inquiétez
pas.
Oui,
c'est quel est le PIB de la ville de Dallas ou des trucs comme ça.
Qui est le créateur de la société Exxon Mobil.
Voilà. Ouais, Mark Cuban.
Ça. C'est pas Mark Cuban. Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. C'est la crise à Dallas.
Things are much worse than we thought for the Dallas Mavericks.
DJ calmly gets it to Dennis.
Oh, the kill shot! It's over! Dennis Smith, welcome back to Dallas!
They'd go on to drop two straight games to the Charlotte Hornets.
Alors, c'est parti. Donc, ça va un tout petit peu mieux à Dallas après une victoire contre Indiana. Mais Dallas est toujours hors des play-in et pourrait être donc bien la victime de cette course au play-off à l'ouest si dense, puisque Oklahoma City, pour l'instant, a le 10e spot. Je vous rappelle qu'on enregistre ce podcast le mardi. Et donc, au moment où on se parle, eh bien, c'est Dallas qui est éjecté de cette course au play-in. Les Mavs vont-ils s'en sortir, Sacha? Dallas a réagi, mais Dallas est en crise. Doncic s'est même confié sur ses doutes en cette fin de saison.
Ouais, il a confié en conférence de presse qu'il était
très, très, très frustré et dit, je pense que vous le voyez sur le terrain, ça se voit que je ne suis pas comme d'habitude. D'habitude, je suis en train de sourire, je prends du plaisir à jouer. Mais là, on ressent que ce n'est pas le cas. Et il dit que ce n'est pas seulement le basket finalement qui le concerne. Il y a d'autres soucis aussi qu'il regarde. Bah, je pense que la saison, elle part pour elle. C'est un petit peu compliqué. Comme tu l'as dit, ils sont à une victoire d'intégrer le play-in. Alors, cette victoire, ils en ont absolument besoin parce qu'ils ont le tie-breaker sur les Lakers et le Thunder. Ce qui veut dire que...
Je sais pas ce que ça veut dire.
C'est sûr qu'ils ont le tie-breaker sur OKC. Hein? Les Lakers, je suis sûr, mais sur OKC, je suis pas sûr.
Sur OKC, bah, je l'ai lu ce matin. Pour moi, ils avaient le tie-breaker. Alors après,
je fais confiance.
Ce qui fait que s'ils sont à égalité de bilan avec eux, normalement, ils passent devant. Donc ça veut dire que si on est sur une égalité
au nom de
bilan,
quoi, au nom des résultats,
des confrontations
directes. Mmh. Et bah en fait, la mauvaise opération pour Dallas, ça a été ces deux défaites contre les Hornets. Normalement, c'est des matchs que tu dois pas perdre. Et tu vois que sur la série des 10 derniers matchs, ils sont à 3 victoires pour 7 défaites. Luka Doncic était menacé d'une suspension pour sa 16e faute technique, mais la NBA a très gentiment annulé sa suspension.
Ça, on va en parler quand même.
Ce qui fait qu'il a pu opérer contre Indiana et rapporter cette victoire cette nuit. Ouais, c'est compliqué à Dallas parce que je
pense... Calendrier chaud aussi, hein, même si ils finissent par San Antonio, ils vont jouer Philadelphie, ils vont jouer Sacramento, ils vont jouer...
À domicile. Ils finissent par 3 matchs à domicile, Kings, Bulls, Spurs. Et là, ils enchaînent 4 déplacements. À Indiana, ils ont gagné. Ils vont à Philly, ils vont à Miami, ils vont à Atlanta.
Après, Philly, c'est pour moi, ils ont déjà clinché, enfin, ils ont verrouillé leur spot de playoff. Peut-être qu'ils peuvent un peu lever le pied. Ça peut être quelque chose qui peut intéresser Dallas et ils peuvent peut-être repartir avec une victoire. Atlanta et Miami, eux, ils jouent leur place en play-in. Ça va être plus compliqué, je pense.
Est-ce que la Ligue a fait un cadeau à Doncic, Fred ? Un passe-droit ?
Bah, c'est difficile parce que honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu l'action, ça n'a pas l'air vraiment d'être une faute technique monstrueuse hein, quand même. On a l'impression qu'il dit un petit truc, mais c'est pas, on l'a déjà vu être plus virulent et pas prendre de faute technique, donc c'était un peu surprenant.
Oui, mais on
quand
a
même.
Déjà vu la Ligue intransigeante
mais c'est vrai,
quand même.
On a déjà vu la Ligue intransigeante et ce qui est vrai, c'est que c'est surprenant qu'ils reviennent sur la décision, entre guillemets, et qu'ils annulent cette suspension, surtout quand les Mavs ont tellement besoin de victoire. Ça, j'avoue que c'est. Ça peut être suspicieux, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est suspect, en tout cas. Est-ce que vous voyez les Mavs s'en sortir, alors, Steve ?
Moi, je pense qu'ils vont gratter, je pense qu'ils vont gratter le spot en play-in. Maintenant, cette équipe, elle a beaucoup, beaucoup de carences, notamment défensives, notamment au rebond. Les deux défaites face à Charlotte, elles sont honteuses dans l'attitude, dans le contenu. Ils se font taper au rebond, 21 rebonds de plus pour les Hornets, dont en face ils ont un pivot rookie starter et Mirai Luc starter. Il n'y avait ni Terry Rozier ni LaMelo Ball qui a fini sa saison, donc c'est catastrophique de perdre contre les Hornets. Maintenant je pense qu'ils vont s'en sortir parce que les deux garçons vont faire les efforts quand même pour gratter les matchs nécessaires. Maintenant si tu veux parler de cette équipe des Mavs, Spiro, sur ce qu'elle propose, eh ben on peut en parler. Jason Kidd s'est trompé, le management des Mavs se sont trompés en cette philosophie de on va mettre plus de points que les autres. Ben, aujourd'hui Ça n'existe pas. Jason Kidd, quand il prend Kyrie Irving, il fait une croix sur la philosophie défensive qui était la leur l'année dernière. Parce que s'ils font finale de conf l'année dernière, c'est Luka Doncic, certes, mais parce qu'il y a une assise défensive très forte. Et aujourd'hui, les bases défensives n'existent plus du côté de Dallas. Ils veulent mettre que des points. Mais aujourd'hui, vous affrontez des équipes NBA avec des joueurs peut-être pas connus, mais qui sont capables de mettre autant de points que vous. Et quand vous ne faites pas un stop, que vous ne prenez pas un rebond, que Christian Wood est une fraude monumentale, que vous avez pas.
C'est le joueur préféré de Fred.
Christian Wood.
Ouais.
Non, c'est pas vrai.
Le mec, il va jamais à la maillotche, frère. C'est un faux pivot. Quand tu espères que Dwight Powell te soit la dissuasion intérieure avec Maxi Kleber, bah, tu voyages pas avec cette équipe-là. Et quand tu regardes en profondeur, cette équipe, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. L'année dernière, il y avait de l'âme dans cette équipe. Les role-players étaient fantastiques. Et même les role-players surjouaient, même surperformaient l'année dernière. Et ces mecs-là, aujourd'hui, ils jouent à leur vrai niveau. Et bien, leur vrai niveau, c'est le niveau qui n'est pas en play-off, en fait.
Fred, Christian Wood, quand même, tu nous l'as vendu quand il est arrivé à Dallas.
Non, j'ai dit qu'il était capable de faire des stats et qu'il pouvait être un apport pour Luka Doncic sur les alley-oops, etc. Mais j'ai jamais dit que c'était un protecteur de cercle. Et quand tu perds Finney Smith et quand tu perds Spencer Dinwiddie, qui était un petit peu ces joueurs qui, comme disait Stephen, apportent un petit peu, qui donnent ce qu'il faut au bon moment, et surtout Finney Smith, qui était un peu l'âme défensive de cette équipe. Bah, tu perds beaucoup en fait. C'est là que tu t'en rends compte. Et effectivement, la philosophie de tout pour l'attaque, elle ne peut plus fonctionner dans cette NBA moderne où tout le monde est capable de marquer des points. Donc il faut vraiment être exceptionnellement fort pour pouvoir les battre en marquant que plus de points que l'autre et pas en défendant. Et à partir de là, bah, c'est compliqué. Surtout que ce duo-là, magique sur le papier, parce que concrètement, il y a beaucoup de qualité entre Irving et Doncic, mais ce duo, il ne se connaît presque pas, il n'a presque pas joué ensemble. Et ils ont du mal à se trouver pour l'instant, surtout avec une équipe mal construite, avec quasiment que des extérieurs.
Tu les vois s'en sortir ou pas?
Franchement, moi, je les vois pas s'en sortir. Ils accrocheront le play-in, oui, mais je pense que ça sera un petit tour.
Après,
et puis
le play-in, oui, il y a quand même les Lakers qui vont s'accrocher. Le Thunder, bon, bah, c'est pas si cata, hein, je sais pas.
Non, c'est bien le Thunder.
Qu'est-ce qui vous fait
non,
dire
non, c'est bien le Thunder.
Qu'à coup sûr, ils vont s'en sortir.
Bah, parce qu'on a l'espoir de.
Moi, j'ai pas dit à coup sûr. Hein.
Non, mais tu les vois s'en sortir quand même. Ouais.
À l'espoir du binôme.
Moi, je les vois s'en sortir parce qu'il y a quand même de la qualité.
Sacha,
c'est compliqué. Hein. On parlait des Pelicans la semaine dernière. Ils sont en train de faire une remontée fantastique. Ils chopent la 8e place. Bah, le truc, c'est de compter sur les défaites des autres hein, pour Dallas. C'est de prendre une victoire et que les Lakers et le Thunder tombent. Pour moi, c'est la seule chance pour eux de remonter au classement. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Steve. Elle est mal foutue, l'équipe. Il n'y a rien à l'intérieur. En fait, t'as un backcourt qui est super performant, qui peut marquer beaucoup de points, qui peut faire le jeu, etc. À côté, t'as que des mecs soft. La réalité, c'est que Doncic, il a toujours été entouré de roleplayers, mais comme tu l'as dit, qui surperformait. Et je pense que c'est Finney Smith qui était un peu la clé de voûte de ce truc-là et qui rajoutait supplément d'âme. Aujourd'hui, ils sont en galère. L'intérieur, il est pourri. C'est une des pires équipes au rebond. C'est un rythme qui est très, très lent. Et en plus, ils ont un pourcentage de défense sur les tirs à deux points qui est un des pires de la ligue. C'est-à-dire que vraiment.
Pourquoi, partir... Parce que t'as pas grand, qu'il y a pas
de. C'est ça, à partir du moment où tu passes de la ligne à trois
pas
points, il n'y a personne qui va te mettre un peu de dureté, un peu de viande dans la tronche. Et bah, c'est une équipe qui est soft défensivement. Donc tout ça, ça s'explique. Et je pense que même en termes de gestion, les moves, ils ont pas été bons
non,
depuis
après,
des années.
Après ces moves-là, cette équipe, avant la trade...
Rappelle-nous qui ils ont perdu, là, qui leur fait défaut quand
Finney
même.
Finney Smith et
Dinwiddie, des picks de draft. Mais en fait, si tu reprends l'historique, t'as Porzingis en échec, t'as Christian Wood en échec, t'as Willie Colestein en échec, t'as que des noms d'intérieur qui soit sont des intérieurs qui sont fuyants et qui vont pas au mastic, soit des mecs qui sont complètement du père. Et là, t'as compté sur JaVale McGee en renfort. Donc,
qui a été bon, il y a JaVale
McGee. Oui, mais ça en dit long.
C'est un bon match, JaVale McGee, quand même.
Oui, mais ça en dit long. Je veux dire, tu construis pas l'avenir d'une franchise en disant McGee, c'est mon solide pivot.
Tu sais, c'est quoi la problématique de cette équipe? C'est qu'on est bientôt au début avril et c'est que Jason Kidd ne sait pas quoi faire de son équipe. Il tente des choses encore au mois d'avril. Dwight Powell qui joue 4 minutes le dernier match parce qu'il voit que ça ne fonctionne pas et il essaye de tenter des choses. JaVale McGee qui pendant 2 mois était le donneur de boissons et le porte-serviette de cette équipe qui hier se retrouve à jouer et à performer. C'est que Jason Kidd se cherche encore. Après, Jason Kidd, il est responsable. Hein. Jason Kidd, il est responsable de cette philosophie d'attaquer et de ne pas défendre. C'est quand même le coach de cette équipe-là. Et puis, il faut aussi parler de Lucas.
Alors là, j'allais y venir, mais je savais pas comment l'aborder.
Non, il faut parler de Lucas, qui est quand même le leader. Il a une part de responsabilité en tant que leader de cette équipe. Je supporte de moins en moins les frasques et les attitudes de Lucas Doncic. Ses attitudes négligentes, sa proportion à toujours venir chialer auprès des arbitres, à toujours protester, à toujours prendre des fautes techniques, parce que là, il s'en sort bien. Mais le mec a pris 16 fautes techniques. Il est sans cesse, même quand il marque des paniers, toujours à se plaindre, à regarder l'arbitre avec un œil de une sous-merde.
Si on l'avait remarqué il y a quelques temps déjà.
Oui,
mais
il n'a pas changé.
Il pleurait tout le temps, surtout.
Non, mais il était playoffable. Là, c'est bizarre, du coup.
Il est de pire, oui, mais il est de pire en pire. Il est de pire en pire. Il est en train de se caricaturer lui-même par rapport à ça.
Et alors, au-delà de son caractère et de son attitude, est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers un franchise player inentourable, disons-le comme ça?
Inentourable, je crois pas. Inentourable, parce que dans sa carrière...
Est-ce que lui, il a quelque chose à changer dans son jeu?
Sûrement, il a des choses à changer, mais dans sa carrière, il a montré qu'il était capable de jouer dans des grandes équipes avec des grands joueurs. À Madrid, il était entouré de grands joueurs. Avec la Slovénie, quand ils sont champions d'Europe, il était entouré de grands joueurs.
Il n'avait pas cette posture.
Stephen,
il n'avait pas cette posture-là. La posture qu'il a actuellement, c'est lui le leader. Quand il était dans les équipes que tu as citées, ça n'a jamais été le leader absolu. Il a toujours eu un mec, quand ça a performé, je parle, il y a toujours eu un mec un petit peu au-dessus qui détermine, même si à Madrid.
Après, sa dernière saison Real, c'est quasiment le patron de l'équipe quand même.
Je suis d'accord, sauf
Slovénie, moi je trouve c'est un bon exemple.
Il y a un niveau incroyable.
La Slovénie, c'est lui le leader, c'est lui le patron.
Ouais,
mais il a un intérieur besogneux comme Toby, et je pense que tu peux trouver quelque chose. Enfin, tu peux trouver une connexion qui peut être assez similaire au NBA facilement, je trouve.
Ouais, après, moi, il faut qu'il change d'attitude. Même à cet été à l'Eurobasket, il est insupportable. T'as envie de le haïr, ce mec-là. Il traite les arbitres comme si c'était des sous-merdes. Il fait des signes. Tu l'as vu ce signe là quand il fait l'argent, vous êtes payé avec ses doigts comme ça. Là, vous avez fait un peu d'arbitrage, vous êtes payé.
Il a payé
35 000 euros d'amende. Il faut qu'il change ses attitudes pour le rendre.
Respect. respecter les arbitres.
Tu peux ne pas aimer les arbitres, mais sois meilleur. Dans ton... Tu peux être plus malin, d'une petite tape sur les fesses, tu rigoles avec eux. Là, il est toujours dans le conflit permanent avec, avec les arbitres.
Tu n'as jamais fait ça, toi, le signe vous êtes payé, vous êtes corrompu aux arbitres, Steve?
Non, non, non.
Tu as fait d'autres trucs?
Oui, j'ai fait d'autres trucs. Avec les doigts aussi, mais ce n'était pas ça. Mais
et lui... je ne pensais pas qu'un jour, Stephen, il donnerait des conseils de gestion de la colère avec les arbitres.
Non. Et puis, Luka Doncic, depuis quand Luka Doncic est un meneur shooter à 3 points? Contre Charlotte, il prend 16 tirs à 3 points. Alors certes, il en met 7, les pourcentages sont corrects, mais le mec, il prend 10 step back à 3 points. Enfin, Luka Doncic n'est pas réputé pour être un meneur tireur à 3 points. Il est capable de faire d'autres choses. Mais c'est à l'image de cette équipe qui prend 50 tirs à 3 points contre Charlotte. Ils ne font plus que ça, que tirer à 3 points. Parce que vu que tu n'as pas de pivot capable de mettre un panton, tu as Luka Doncic à la balle et 4 mecs en fer à cheval qui attendent les fixations de passe et ils tirent qu'à 3 points. Et Luka Doncic fait des passes d'ess. Mais cette équipe, elle est 28e au pass décisif. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. C'est le néant collectif.
Donc, les néant collectif.
Néant collectif. Mais parce qu'il y a un seul créateur dans cette équipe. Il y a un seul créateur dans cette équipe, c'est Luka Doncic, même si Kyrie Irving est arrivé maintenant, mais au départ, il n'y a qu'un seul créateur, et forcément, ben, si tu n'as qu'un seul mec capable de faire des passes, ben, tu dégringoles.
Après, on pourrait le reconnaître qu'il n'y a pas eu beaucoup d'affinités, parce que Kyrie a été blessé deux fois, Luka Doncic a été blessé, et il y a un vrai match référence, c'est contre les Sixers, où ils tapent les Sixers, c'est les deux mettent 82 points à eux deux.
On va en parler du duo Irving-Doncic.
Ils doivent mettre 80 pions à chaque match pour gagner un match.
Vous les avez massacrés collectivement, alors sachant qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour réagir, hein, puisqu'il reste 6 matchs seulement pour se qualifier pour Dallas. Avec ce move donc de la venue de Kyrie Irving dont on avait parlé au moment où il s'est fait et dont on va faire le bilan tout de suite.
This is a snapshot of the whole season for the Mavericks.
After the first L, Luka Doncic would say, "It's really frustrating. I think you can see it with me on the court. Sometimes I don't feel it's me."
Luka with 40 points tonight, the rest of the team with 54 points.
I used to have fun smiling on the court, but it's just been so frustrating for a lot of reasons, not just basketball.
I think what's frustrating for Mavs fans is the reason the Kyrie Irving trade was made was they wanted to go for it this year. They didn't want to waste an MVP caliber Luka season.
Still not giving up hope because I still believe that if you can get these two ridiculously talented and elite half-court scorers into the playoffs.
Alors donc, ce duo était-il voué à l'échec? Kyrie Irving, Luka Doncic, beaucoup de talent, peut-être beaucoup trop de talent, d'ailleurs concentré sur des postes trop proches, c'est possible. On se pose la question, le duo était-il voué à l'échec? Parce qu'il y avait débat au moment du move. Qu'a fait Irving à Dallas depuis son arrivée, Sacha?
Alors, Kyrie Irving, il est arrivé le 8 février pour son premier match avec les Mavericks. Il signe tout de suite une victoire avec 24 points pour ses débuts. Donc, bah, tout de suite, on se dit, ah, bah, finalement, ça peut bien se passer. Depuis, on a 27 points, 6,8 passes D, 5,6 rebonds de moyenne, ce qui est plutôt correct.
Des stats à la Stephen Brun.
Non.
Quand on sait que Kyrie a eu un début de saison difficile avec plein de matchs loupés, depuis, il a joué 16 matchs avec les Mavs, c'est 7 victoires pour 9 défaites. 4 victoires pour 8 défaites quand il joue avec Luka Doncic.
4-8 quand ils jouent ensemble.
Ouais, et en fait, le problème, ce que je constate quand je regarde le calendrier, c'est qu'à chaque fois, Dallas, ils arrivent à perdre des matchs contre des équipes qui sont moins bien classées qu'eux, très souvent, et ça, c'est problématique pour eux. Est-ce qu'on peut dire que c'est raté du côté de Kyrie? Moi, je trouve que Kyrie, bah, quand Luka n'était pas là, il a fait le boulot. Il y a eu quelques victoires qui ont été engrangées. Je pense qu'il y a un vrai problème collectif. Je pense que ce qu'on a perdu en lâchant Finney Smith, je ne parle pas de Dinwiddie parce que je pense que Dinwiddie s'est largement absorbé par Kyrie Irving, mais l'erreur, ça a été de lâcher Dorian Finney Smith. Ça a cassé cette équipe. Kidd, pour moi, c'est une pipe, je le dis très clairement, hein, parce que franchement, peu importe où il est passé en termes de coach, il n'a jamais apporté un truc de fou et ça a plutôt été des échecs. Là, on le constate encore une fois.
Bah, il y a une conférence l'année dernière quand même, t'énerve pas.
Non, mais alors, c'est un concours de circonstances parce que tu sais que cette finale de conf.
Quand tu vas en finale conf, c'est beaucoup de circonstances.
Donc tu fais une finale de conf dans un truc où il n'y a que le titre qui compte, c'est bien. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Dans le sens où on sait que Dallas, ils sont arrivés en finale de conf dans des conditions qui sont assez similaire à ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire une attaque, tu l'as dit, en fer à cheval. Luka Doncic fait les décalages, juste ça défendait un petit peu mieux collectivement. Tu avais ce truc-là, pour le coup, ils étaient soudés, mais c'était tellement ouvert que vas-y, ça passait ou ça cassait. Là, aujourd'hui, quand tu as besoin de stabilité, quand c'est vraiment plus homogène à l'ouest et qu'il y a vraiment des duels et des grosses rivalités pour se frayer un chemin au play-off, tu vois que ça devient beaucoup plus compliqué et que Kidd n'apporte pas de solution là-dessus, en fait.
Alors, toi, tu avais dit, je me souviens, Steve, il n'y a aucun risque. Soit ça marche tout de suite et ils peuvent être champions, soit on ne prolonge pas Kyrie Irving et on redémarre sur autre chose. Mais est-ce que finalement le jeu en valait la chandelle?
Il faut aussi envoyer des signaux positifs à ta superstar, Luka Doncic, tenter des choses pour mieux l'entourer, c'est au risque de le perdre. maintenant, sur la situation des Mavs, pour moi, il est hors de question d'incriminer Kyrie Irving. Il est arrivé dans cette équipe-là. Je trouve que ses prestations sont bonnes, les chiffres sont monstrueux, il a 50% au tir, il a 39% à 3 points, les stats brutes, elles sont folles. Après, il s'est débrouillé tout seul, vu que Luka Doncic a loupé beaucoup de matchs. Moi, la situation, elle n'est pas due à Kyrie Irving, elle est due au management qui a pris cette décision-là. Elle est due au fait que les deux, au début, ont beaucoup cherché à jouer ensemble, à créer une alchimie, et tu t'aperçois que quand ça devient un peu plus compliqué, cette alchimie, elle a disparu. On n'est plus sur un duo, on est sur du 1+1. Quand tu regardes les matchs des Mavs, c'est à toi, à moi, à toi, à moi. Il n'y a pas grand-chose, en fait, entre les deux. Il n'y a pas de symbiose. C'est à tour de rôle, chacun fait son petit numéro. Maintenant, le risque, c'est que l'été peut être cauchemardesque pour les Mavs, parce que Kyrie Irving est free agent, Christian Wood est free agent. Qu'est-ce qu'on fait ? On connaît le loustique Kyrie Irving, il aime l'oseille. S'il y a un club qui donne le max à Kyrie Irving, je vous annonce, il se barre. Sauf que c'est quand même risqué aujourd'hui de donner le max à un garçon comme Kyrie Irving qui, au bout de 3 semaines, peut se barrer, peut partir...
Peut partir en mission avec le FBI aussi, on sait
jamais.
Peut
partir en mission avec le FBI, il peut aller chez les moines moudistes pendant 3 semaines pour ne pas parler et se raser la tête. Donc, cet été, il est compliqué pour les Mavs. Est-ce qu'on fait quoi ? On fait un sign and trade, c'est-à-dire qu'on propose un gros contrat à Kyrie et on se met d'accord avec lui pour le trader et récupérer des joueurs pour reconstruire quelque chose de cohérent et avoir un effectif solide ? On repart avec Kyrie. Est-ce que Kyrie aura cette gratitude, si on peut appeler ça une gratitude, de se dire les Mavs ont tout misé sur moi, me font confiance, est-ce que je reste avec eux ? Maintenant, connaissant Loustic, je ne sais pas s'il connaît le mot gratitude. Lui, il regarde son compte en banque, Kyrie Irving. Après, Kyrie, je dédouane de la situation. Il fait ce qu'il a à faire. C'est juste que ça ne matche pas forcément entre les deux et que cet effectif, il est tout simplement trop faible.
Et est-ce que ça aurait pu marcher potentiellement, Fred ? C'était plus sceptique, je crois.
Moi, je vais revenir sur ce que j'avais dit. J'avais dit il faudra du temps, il faut qu'il se trouve. Et s'il se trouve, ça peut marcher, évidemment. Mais Stephen l'a bien expliqué. Ça ne se trouve pas, tout simplement. Ça ne s'est pas trouvé encore. Ils ont eu des problématiques pour de pas jouer énormément ensemble, en plus. Et c'est vrai que c'est plus du 1+1 qu'un vrai duo. Mais ce qui est logique. Il vient juste d'arriver, il faudrait du temps pour travailler. Mais moi, j'ai bien l'impression que cet été, ils vont partir une main devant, une main derrière, hein, les Mavs. Parce que quand tu vas perdre les deux, parce que Kyrie Irving, pour moi, c'est mort. Vu en plus les déclarations qu'il vient de faire sur Luka Doncic, je pense qu'il se met un petit peu les fans des Mavs à dos. Christian Wood, à mon avis, il va partir aussi.
Qu'est-ce qu'il a dit exactement ?
Commencer tout à zéro. Mais en gros, il a dit qu'il y avait des choses plus importantes que le basket, que son coéquipier n'était pas bien, il était plus sur la partie humaine, etc. Ce qui est, entre guillemets, plutôt juste. Sauf que dans la situation des Mavs, qui veulent gagner, les supporters, etc., c'est un petit peu difficile à entendre. Et moi, je pense que ce garçon est irréprochable en termes de basket depuis qu'il est arrivé. Mais comme d'habitude, sur ses déclats, parfois il est
trop électron libre.
Bon.
Ouais, après.
Trop électron libre, tu sais pas ce qu'il va donner. Tu sais que sur le basket, franchement, c'est plutôt que très cohérent quand même ce qu'il propose.
Après,
Stephen a rappelé ses stats, il a 27 points, il fait ce qu'il a à faire. Quoi.
Mais il s'est mis un peu. Il s'est mis pas de public de Mavs, parce que le public des Mavs a sifflé en fait. Ils ont fait un premier carton cata sur le premier match contre l'Hornets. Le public des fans des Mavs s'est mis à siffler. Et en conférence de presse, lui, il a dit « Si vous êtes venu pour siffler, c'est pas la peine. Vous croyez qu'on joue ?» Bref, il a fait quelques remarques compliquées. Maintenant, est-ce que c'était vraiment un gros risque de tout faire péter pour tenter le one shot et être champion NBA ? Je ne suis pas sûr.
Bah, non, moi, je comprends le move. Comme tu le disais, de toute façon, il fallait tenter de passer un cap. Sinon... T'allais
faire un tour ou demi-finale, voilà. De conf, t'allais vivoter.
Vraisemblablement, tu revivais la même chose, donc fallait tenter quelque chose. Moi, après, là où je pose un petit peu des... Là où on aurait pu avoir des avertissements, c'est qu'on le sait, faire un trade déjà en milieu de saison, c'est compliqué. Faire un trade en milieu de saison pour une superstar qui joue en backcourt avec Luka Doncic, ça devient très, très, très compliqué. Si on prend l'historique des duos qui sont en backcourt, en général, c'est assez compliqué de les faire vivre ensemble pendant longtemps. Ou alors qu'ils sont sur des périmètres de jeu similaires, je repense à Boston. Mais le temps qu'on a mis pour trouver la vraie synergie entre Jaylen Brown et Jason Tatum, ça ne s'est pas fait en une année, ça s'est fait en plusieurs années, ça a été long. Je pense que même Philly, dans la cohabitation d'Embiid avec une autre star, avec Tobias Harris, avec Harden, etc., ça a mis du temps. C'est difficile, je pense, quand tu es sur des choses si proches, que la mayonnaise prenne vite. Si tu avais un intérieur, peut-être que ça aurait été.
Mais c'est ça
simple.
Le truc, c'est que pourquoi faire venir un mec ? Alors, c'est pas le même
parce
jeu.
Parce que c'était la seule possibilité de faire quelque chose avec une star.
Ouais, c'est le plus gros mec accessible
quand
à ce moment-là.
Kyrie Irving, ça se tente.
C'est comme si un club foot qui avait déjà Mbappé et Neymar faisait venir Messi.
Ouais,
quoi.
Un peu. Un peu, en pensant que ça allait fonctionner. Maintenant, après, ça remet des interrogations, comme le dit. comme le dit Sacha, sur la capacité de Luka à jouer avec une autre superstar à côté. Mais le problème, c'est que Luka tout seul, il passera sa vie peut-être à Dallas, mais je ne suis pas sûr qu'il gagne une bague de champion.
Ah, c'est ça, c'est ça le problème.
Mais je suis partagé. Parce qu'il
ne peut pas faire une carrière à la Garnett. Mais je ne sais pas, parti pour ça.
Je suis partagé. Garnett, bah, Garnett était champion.
Oui, il a fini, mais en partant de Minnesota.
Oui, mais le problème de Luka, je suis partagé sur le fait de dire est-ce qu'il a vraiment envie de jouer avec une superstar. Et son côté, c'est un winner, mec. Il a gagné avec le Real, il a tout gagné. Il a la gagne en lui. Il a la haine de la défaite. Donc, je me dis que c'est un garçon suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il doit faire et s'adapter si jamais il veut une bague de champion. Mais les propos, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie privée. Il y a un peu un spleen, je ne sais pas. On ne sait pas exactement ce qu'il y a.
Il y a un truc économique. Tu sais, il se bat pour les droits de sa marque.
Oui, mais ça s'est arrangé avec sa mère. Tout est planifié avec sa maman.
Il y avait peut-être un sujet par rapport à ça. Après, moi, je pense que Luka, il est aussi, on l'a habitué à être entouré de mecs moins bons et d'être obligé de tout faire, tu vois. C'est difficile, je pense, quand t'as passé plusieurs années entouré vraiment de mecs pas ouf. T'as réussi à les amener en play-off, t'as réussi à aller en finale de conf. Enfin, franchement, les trucs qu'il fait, c'est incroyable.
Oui, mais Sacha, il s'en plaint tout le temps. Sacha, il s'en plaint tout le temps aussi de pas être entouré. Donc, il peut pas, d'un côté, avec cette volonté et cette mentalité de gagnant, dire bah, j'ai envie d'être entouré, et quand il est entouré, dire bah, non, c'est chiant.
Ouais, enfin, mais là, vois, il est entouré avec un gros gars, mais il a perdu autour. Enfin, oui, je veux dire, tout autour, ça reste quand même pas mal de joueurs
mais
pas
Christian
ouf.
Wood, il était là pour. Il était censé être un gros gars aussi au départ, donc ils ont essayé de faire les efforts.
Ouais, mais Porzingis et Wood, je trouve qu'ils perdent un peu leur basket et leur coronesse quand ils arrivent à Dallas. Enfin, les mecs servent plus à rien, ils restent campés à 3 points.
Porzingis, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose dans le slibar. Hein. Partout où il est passé. Bah,
non, mais à New York, c'était correct, non ?
New York, ouais, quand il jouait, ouais.
Ouais, mais après, il y a eu la blessure et tout. Il y a des passages intéressants à Washington, mais vraiment, ce qu'il fait à Dallas, c'est scandaleux. Je pense que tout le monde en peut plus quand il est à Dallas. Porzingis, c'est vraiment l'ombre de lui-même.
C'est la softeté absolue, mais Christian Wood, c'est la même chose.
C'est pareil.
C'est la softeté absolue.
C'est deux mecs qui ont capitalisé sur des méga contrats sur une ou deux saisons. Et après, tu les as mis dans
Christian Wood, il va se barrer. Il a chialé toute l'année parce qu'au début, il n'était pas starter.
Quand t'as besoin d'eux, ils sont pas là. Donc, ils répondent pas.
Donc écoute, moi je sais pas. Est-ce qu'il faut pas prendre une superstar sur le poste 5 ?
Est-ce que c'est Doncic qui les inhibe ou est-ce que c'est un problème différent ?
Bah eux, en tout cas, ils sont pas pointés. Hein. Ils ont pas pointé leur bout du nez. Doncic, quand il les a cherchés, ils ont pas répondu.
Toi, qui es fan des Mavs, qui serait le complément idéal hors marché, c'est-à-dire hors considération. Comment dire, de marché réel. C'est-à-dire, si tu avais un truc que tu pouvais réaliser, tu prendrais qui ?
Joel Embiid.
Ok.
Parce que je pense que quand tu es pivot, jouer avec Luka Doncic, je pense que ça te fait passer un cap dans ta carrière. Mec, tu as un vrai pivot qui fait du pick and dive, du pick and pop. Tu es avec Luka Doncic. Bon, Luka Doncic, je ne sais pas si vous avez vu la passe qu'il fait encore là, cette nuit exceptionnelle où il est quasiment trappé dans le corner à l'opposé.
Tu as 3 points.
Ouais,
là.
Like, mec, elle sort de nulle part, cette passe. Mec, c'est un génie. Je te dis que Luka Doncic, c'est un génie. Après, physiquement, il va falloir aussi qu'il s'étoffe un petit peu, parce que là, il n'a que 24 ans. Je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir jusqu'à 32 ans en n'ayant pas un muscle découpé sur son corps. Voilà, ou ramenez-moi le Nikola Jokic, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, écoute, et puis, je pense que le front office des Mavs a peur de perdre Luka Doncic, même s'il est dans la première année de ce gros contrat. Si Luka Doncic, au bout d'un moment, estime que...
Si tu ramènes Jokic au Mavs avec Doncic, il faut mettre des services de sécurité devant tous les fast-foods de la ville. Là.
Non, même si Jokic est amélioré. Mais il y a une vraie pression. Les Mavs aussi, aujourd'hui, sont sous pression. Parce que t'es pas à l'abri que Luka Doncic demande son trade.
Alors maintenant, nous allons venir à la partie historique sur cet échec Irving-Doncic. Vous allez me raconter un duo qui aurait dû fonctionner, mais qui a échoué.
Two will make you a title contender. However, that's not an exact science. After winning just one playoff game in 2 years, it was clear that Iverson and Melo were good on paper, which could not be said about KD and Russell Westbrook. His White still managed to make the All-Star team in Houston, but his relationship with James Harden soon became identical to his beef with Kobe, Tracy McGrady. In 2000, McGrady left Toronto and his cousin Vince in order to play with the best small forward in the NBA at the time. It was Grant Hill.
Alors, c'est un Basket Time spécial crise à Dallas. On a décortiqué l'échec Irving-Doncic et vous allez me raconter, vous, quel duo vous a fait fantasmer et vous a fortement déçu. Qui commence ? On va commencer par Stephen aujourd'hui.
Écoute, moi, c'est un binôme Carmelo-Anthony, Allen Iverson, aux Nuggets.
Très beau casting.
On rappelle que Carmelo arrive en 2003 à Denver et tout de suite, il ramène les Nuggets en playoffs, ce qui n'était plus arrivé depuis 1995. Mais Melo est trop seul et échoue systématiquement au premier tour. Début 2006, Denver démarre la saison en gagnant gagnant 14 matchs sur 25. Et là, les dirigeants décident de faire un one shot, c'est-à-dire qu'on pète tout.
Dallas,
en fait. Exactement. Et on joue le va-tout pour devenir un prétendant au titre. Ils vont trade André Miller, qui est un très bon meneur de jeu et taulier de cette équipe-là, plus Joe Smith, l'ailier fort, contre un des plus grands scoreurs de l'histoire, Allen Iverson, qui était à 31 points de moyenne sur le début de saison avec les Sixers et qui a 31 ans. Toute la NBA est hypée de ouf. La réunion peut-être des deux plus grands scoreurs de la NBA dans la même équipe, ça donne des étoiles à tout le monde. Bon, finalement, le duo, il aura fonctionné, il aura jamais fonctionné. Les deux ont mis des points, mais chacun à leur tour, aucune complémentarité, un peu comme Kyrie et Luka, aucune connexion dans le jeu. Ils vont tout juste avoir un bilan positif à deux la première année, 31 victoires, 28 défaites, et une nouvelle fois sorti au premier tour contre les Spurs. L'expérience, elle durera une année supplémentaire avec le même résultat, sweepé par les Lakers, et l'expérience, elle prendra fin après trois petits match de la saison 2008-2009, exit Allen Iverson, et welcome Chauncey Billups. Et là, comme par hasard, ça sera la meilleure période de l'ère Melo avec Chauncey Billups. Ils font finale de conf où ils perdent 4-2 contre les Lakers. Et au final,
deux gloutons.
Ils ont mis des points, hein. Ils ont été à 60 points accumulés, 55 points accumulés de moyenne. Mais les gloutons, un glouton et un glouton, et ben, ils ont tout mangé, mais ils ont mangé aussi les aspirations.
Pac-Man, quoi. Exactement. Ils se sont fait croquer par les fantômes.
Exactement.
Et terminé.
Voilà.
Très bien, très bon exemple, bravo Iverson Carmelo. Pourtant, vraiment, c'est vrai que sur le papier.
Et puis c'est saliver. Deux joueurs à leur prime. Hein.
C'est De Niro avec Al Pacino.
Al Pacino, mais dans l'affaire du dimanche, ça a fonctionné quand même.
Dans Heat.
Dans l'affaire du dimanche, ils sont ensemble aussi.
Ah bon,
non,
il n'y a pas De Niro. Il y a Pacino, pardon.
Il y a Jamie Foxx.
Alors, c'est Dorian Parker.
Quel est ton duo, Fred Weiss?
Ben, moi, j'étais obligé de mettre un big man. Hein, donc, j'ai trouvé un duo avec un big man. Donc, je vais parler d'abord du premier membre de ce duo. Un produit made in China, comme on les aime, c'est-à-dire qu'on a réussi à marier une femme de 1m88 et un homme de 2m1, deux anciens basketteurs professionnels, pour faire un joueur monstrueux, pour faire un robot, un joueur de 2m29, avec énormément de talent, cette capacité à courir, à jouer très très bien au basket, vu une des premières fois à l'international, à Sydney en 2000, premier de draft en 2002. Et ensuite, j'ai parlé...
T'as toujours pas donné son nom, quand même, même si on sait tous de qui tu parles.
C'est Yao Ming, évidemment, Yao Ming. J'ai pas donné son nom, évidemment. Ensuite, j'ai choisi Tracy McGrady. Parce que Tracy McGrady l'a rejoint un petit peu plus tard. C'est un joueur tellement... à Houston. Mais laisse-moi raconter un petit peu, laisse-moi faire le storytelling.
Excuse-moi.
Donc, il est tellement prometteur qu'il passera même pas par la fac. Il sera meilleur lycéen de sa génération. Et il sera drafté en 9e position par les Toronto Raptors. Trois saisons aux Raptors. Avec Vince Carter, qui va le former un petit peu. Il va vraiment montrer tout le talent qu'il a. Et puis, il ira à Orlando, où il sera meilleur scoreur de la Ligue en 2003 et 2004. Et finalement, en 2004, il va signer à Houston, où il rejoindra Yao Ming. Alors, la première saison, elle est plutôt prometteuse. Plus de 50 victoires. Ça marche plutôt pas mal. Ils vont se retrouver en premier tour contre les Mavs. Ils vont même mener, alors qu'ils joueront à l'extérieur, 2-0 contre les Mavs. Et finalement, ils seront battus avec un match 7 à moins 40 pour eux. Donc ça commençait très moyennement. Ensuite, deuxième saison, Yao Ming est blessé. Il rate les 25 derniers matchs, il ne prend même pas les playoffs. Troisième et quatrième saison, ça sera à peu près la même chose. Plus de 50 victoires, oui, mais éliminé au premier tour par Utah. La cinquième saison, ils vont passer un tour de playoffs, mais bon, ça sera contre les Blazers, puis ils seront éliminés avec les honneurs contre les Lakers. Mais Tracy McGrady ne sera pas là parce qu'il aura été blessé lui aussi énormément cette saison-là. Finalement, en 2009-2010, il sera tradé. Il ira à New York et en fait, ils en parlent eux-mêmes hein, en disant que c'est un vrai regret. Ils sont restés en bon terme après ça, mais ils disent que c'est un vrai regret qu'ils n'aient pas réussi à vraiment profiter du potentiel des deux joueurs suite à des blessures principalement. Tracy McGrady, le dos, et Yao Ming, les pieds principalement. Et finalement, de ces deux joueurs qui sont vraiment fantastiques, quand même, quand on parle de Tracy McGrady, il faut se rappeler que Kobe Bryant a dit que c'était le joueur le plus difficile à défendre de la Ligue. Et bien finalement, ils auront passé une seule fois un premier tour et encore parce qu'ils n'auront pas été au complet.
Non, mais je suis content que tu aies démarré en disant ça, la première saison est plutôt bonne parce que j'ai un souvenir assez récent, Yao Ming McGrady, c'est pas l'histoire entière de la NBA.
Non, j'ai un souvenir en 2004-2005.
De promesses quand même qui durent. C'est-à-dire que ça n'a jamais abouti à rien. Mais comme si chaque année on y croyait encore, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un échec patent, rapide et
Ils ont un record de série de victoires, les Rockets.
Mais moi, quand je parle d'échec, c'est qu'ils ont jamais passé un premier tour de play-off. Mais après, ils ont fait quand même 3 ou 4 saisons pendant cette période-là à plus de 50 victoires. Hein.
Jamais passé
plutôt,
un premier tour de play-off.
Plutôt très intéressant. Mais ils n'ont jamais passé, sauf la dernière année, quand Tracy McGrady se blesse.
Très bien, bravo, bravo Fred. Il fallait parler de ce duo Yao Ming-McGrady qui a aussi fait fantasmer la NBA, en tout cas les fans de Houston. Sacha, c'est encore plus récent toi ton duo.
Ouais, c'est très récent et je vais devoir me justifier je pense pour ce duo-là comme d'habitude. J'ai pris CJ McCollum et Damien Lillard parce que je trouve que c'est un parallèle qui est intéressant quand on voit la situation des Mavs, parce que c'est clairement un duo qui est resté beaucoup trop longtemps qu'il n'aurait dû. Parce que la franchise n'a pas osé le séparer. Pour vous remettre un petit peu le contexte dans l'histoire, à cette époque-là, bon, Portland, c'est une très solide équipe avec pas mal de joueurs intéressants, la Marcus Aldridge, Damien Lillard forcément, Nicolas Batum, enfin bref, il y a de nombreux joueurs. Et à ce moment-là, il y a Wes Matthews qui joue poste 2 dans cette équipe de Portland, il se blesse et ça va être la révélation. On va envoyer le rookie CJ McCollum en tant que titulaire sur ce poste, il fait un taf monumental et du coup, on décide tout de suite de séparer de Wes Matthews en se disant, bon, ça y est, on a trouvé l'avenir et on va miser sur cette paire Damien Lillard, CJ McCollum, une paire qui va faire 10 saisons ensemble avec comme plus grand accomplissement cette finale de conférence atteinte sur la saison 2018-2019 où ils se font malheureusement sweeper par les Warriors 4-0. Ils avaient fini 3e de la saison régulière à l'Ouest et en fait bah, tu te rends compte que ce duo là qui était deux fantastiques scoreurs, un meneur, un poste 2, deux très bons shooters que ce soit à mi-distance ou à 3 points, bah finalement ça a toujours eu ses limites, ça a toujours atteint son plafond, ça sort soit au premier soit au deuxième tour à chaque fois et ça a surtout une stat de la honte, c'est que ça a fini en 2018 troisième à l'Ouest pour se faire sweeper par les Pelicans qui sont amoindris, qui sont sixième de la conférence au premier tour, donc ça c'est une très très grosse déception. Finalement, en fait, ça a toujours été sur courant alternatif. Soit Lillard performait, soit McCollum performait. Les deux ensemble, ça a été plutôt rare. Et à chaque fois, sur des séries de playoffs, c'était un petit peu la même chose. Quand on prend leur aboutissement, qui est la finale de conférence, la première série, on s'en rappelle tous, c'est OKC. Damien Lillard fait le boulot. Et on sent qu'il y a un petit peu de côté personnel là-dessus face à Paul George. Il les éclate. La série d'après, c'est contre Denver. C'est plutôt McCollum qui fait le boulot. Et après, bah, la troisième contre Golden State, c'est juste trop fort en face et tu peux rien faire. Et ils ont mis du temps à séparer cette paire. Ils auraient pu le faire au moment où Gary Trent Jr. se révèle pour Portland. Ils ont décidé de conserver les deux. Finalement, ils vont trade Trent Jr. qui ne coûte pas grand-chose. Donc, je n'ai pas trop compris ce move-là. Ils gardent CJ McCollum et pour après, retrade CJ McCollum beaucoup plus tard. Et finalement, McCollum s'épanouit hyper bien aux Pelicans. Et là, bah, Portland fait la gueule parce qu'ils ont tout perdu. Moi, je mets ça sur le compte d'un coach qui n'était pas ouf, je trouve. Terry Stotts qui est resté très, très, très longtemps en place. Une gestion qui a été catastrophique. Lillard, il a jamais été vraiment entouré, en tout cas à l'intérieur, avec ce qu'il aurait dû. Et je trouve que le move autour de Gary Trent Jr., c'est un échec sans nom de Portland. Il y avait peut-être mieux à faire.
Alors, je vais peut-être dire une horreur, mais si on compare aux deux autres duos, est-ce qu'on n'est pas là sur un... Il y a quand même un décalage de qualité entre Lillard et McCollum.
C'est là où je voulais en venir, c'est qu'à la base, CJ McCollum n'est pas attendu pour être une superstar NBA. Certes, il est drafté en 10e position d'une très petite fac et les 2-3 premières saisons, il n'existe pas. Et c'est vrai qu'après, il se révèle être un joueur formidable, mais au départ, il n'y a pas l'attente comme Allen Iverson ou Melo ou comme T-Mac. Mais c'est vrai qu'ils sont allés très loin parce que déjà, les deux étaient amis, s'aimaient forcément. Ils sont allés très loin dans le binôme. Mais je trouve que CJ McCollum a peut-être surperformé par rapport à ce qu'on attendait de lui. Et au bout d'un moment, ils étaient obligés de péter binôme. Mais moi, je trouve que McCollum, il a été plutôt honnête hein, quand même avec Portland. Il était correct.
Donc. Ah non, moi je crache pas sur McCollum, je crache sur la gestion de Portland.
D'accord, en fait je sais sur qui tu craches.
Et je crache un peu sur Lillard.
Damien Lillard, voilà.
Lillard, ça. Ah non, mais le problème c'est
pas l'un, c'est l'autre. Hein.
Mais non, mais il incarne vachement le.
T'as pas les mecs fidèles, toi ?
Bah aussi, pourquoi pas. Mais moi je veux bien que tu sois fidèle et que t'aies envie de gagner, mais que tu baisses ton salaire. Du coup, tu prends pas des supermax parce que c'est ce que tous les superstars ont fait, sauf Damien Lillard. Moi pour moi, Damien Lillard, je vais vous dire.
Bah, le superstar ont baissé leur salaire.
Bah quasiment, ouais. LeBron, il a baissé son salaire à Miami.
Tu veux bien être fidèle, mais tu baisses quand même, quoi.
Ah non, mais je veux dire, à un moment donné, il y a un seul truc à gagner sur une saison NBA. On va être d'accord, c'est le titre NBA. Donc tu fais tout ce que tu as dans ton pouvoir pour gagner un titre NBA, y compris baisser son salaire. Damien Lillard, moi, j'aime bien le discours de « Ouais, je suis pas All-Star. Personne pense à moi, personne me respecte. » Après, c'est genre « Ouais, ben de toute façon, ben, je suis mal entouré, mais ben, je vais quand même prendre un Supermax, comme ça, je vais être encore moins bien entouré. »
Il a cette voix-là, Damien Lillard, en français.
C'est Damien Lillard asiatique, là, par contre.
Non, mais pour moi, Damien Lillard, c'est un joueur qui est surprotégé, c'est un joueur
Attention, Sacha.
Alors, Damien Lillard, c'est quand même le seul joueur qui peut prendre beaucoup de tirs, qui peut se planter, qui peut rater les playoffs. Et on va toujours lui dire: attends, mais il a fait une finale de conf, c'est un truc de malade. Mais tout le monde a fait une finale de conf, en fait.
Tout le monde a fait une finale de conf.
Ouais, Trae Young a fait une finale de conf.
Trae Young, donc t'es en train de me comparer Trae Young à Damien Lillard.
Ouais, clairement.
Oh, il est choqué là.
Attention, Damien Lillard, gros, il a le respect de toute la ligue, respecté par tous les plus grands. Damien Lillard,
ouais, parce qu'il fait des highlights et qu'il fait du rap, c'est bien.
Bah, franchement, c'est bien.
T'as un truc perso.
Non, mais c'est je... non,
il a envoyé un nude à ta meuf.
Mais je trouve que c'est un mec. S'il passe à côté, s'il est moins bon, personne ne lui tombe jamais dessus.
Tu vois ce que t'es en train de faire là?
Ça a toujours été le mec qui a fait des saisons de octobre à décembre catastrophiques. Il se réveille après les trade deadline. Jamais personne ne l'a souligné. Harden, on l'aurait éclaté. Westbrook, on l'aurait éclaté. Même, enfin, tout le monde se serait fait éclater.
On les a éclatés, Harden et Westbrook.
Ouais, mais Lillard ne s'est jamais fait éclater de toute sa carrière. Jamais.
Donc, tu vois ce que t'es en train de faire là? Ça veut dire que t'es en train de résumer la NBA à t'es champion, t'es meilleur, t'es pas champion, t'es une daube.
Pas du tout.
Ça veut dire que tu préfères la carrière de Robert Horry à celle de Damien Lillard?
C'est pas du tout ce que je dis. Je veux dire que si tu es cohérent et que tu dis que ta loyauté c'est d'essayer de ramener un titre à Portland, tu fais vraiment les choses jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, tu fais les sacrifices.
D'accord, il va pas prendre 3500 euros par mois et un T2.
Je pense qu'on n'est pas à 3500. C'est entre 45 millions et passer à 30 millions pour faire venir une tête. Je pense qu'il y a un écart.
Ton avis dans ce clash?
Moi, je comprends tout à fait ce que dit Sacha par rapport à ça. Effectivement, je trouve qu'il a pas fait. Il dit ouais, je vais être fidèle, je vais gagner les titres. Et effectivement, il prend le Supermax. Après, qui critique la carrière de ce joueur qui est quand même fantastique, je trouve ça un petit peu dur. Je suis un petit peu entre les deux, mais c'est vrai que tu peux pas afficher une volonté d'améliorer ton roster. Tu peux pas afficher une volonté d'avoir une meilleure équipe, d'être performant, de vouloir gagner. Et prendre le super max sans titiller du tout quoi.
Ouais, pour moi la morale de cette histoire c'est quand même qu'il y a des mecs fidèles qui baissent quand même et ça c'est quand même très important. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
C'est pas pour Julien Lepers.
Qui était le coach du coach à l'université, pardon.
Quoi? Coco-coach.
Coco-coach, absolument.
Il revient plus vite, hein. Tu prends plein de poire. Plac.
Hey, le back-to-back. Ah, une nouveauté exceptionnelle. Alex, il a l'oreille absolue. C'est un quiz spécial Dallas. Dallas dans tous ses aspects. Hein. Dallas la ville, Dallas la série, Dallas les Mavericks. Voilà, ou autre franchise de Dallas. Parce que ça fait beaucoup de podcasts sur les Mavericks. Donc on ne peut pas à chaque fois faire les mêmes quiz. Sinon on s'ennuierait. On tournerait en rond et là on ne va pas tourner en rond. Est-ce que vous êtes prêts?
On va pas, ouais. Prêt à pas tourner en rond, oui.
Est-ce que vous êtes prêts à pas tourner en rond,
oui,
sur votre Maverick? Alors, vous avez mobilisé les 2-3 neurones
Maverick
que vous avez.
Et Top Gun.
Par exemple,
oui.
Bon, une déclinaison, tac, Maverick, Top Gun, exactement. Alors là, vous mobilisez vos neurones, la question est très facile, mais il faut réfléchir. Qui est le coach de la franchise de la deuxième plus grande ville du Texas? Popovic.
Greg Popovic.
Exceptionnel, il est là, il est plus rapide. Sacha, bravo Sacha. La plus grande ville est Houston, ensuite c'est San Antonio et ensuite c'est Dallas. Premier point pour Sacha. Quel acteur interprète le rôle de
Bobby
Ewing dans la série
Patrick Duffy.
Le problème, c'est que là, tu as un décalage horaire qui va être préjudiciable, Fred. Sacha est parti avant, je pense que...
Patrick Duffy contre les vampires.
Et voilà, exactement. Alors, question subsidiaire.
Subsidiaire, c'est la dernière.
Non, question additionnelle, on va dire. Quelle est l'autre série dans laquelle Patrick Duffy a fait un carton?
Notre belle famille.
Notre belle famille.
Non, une famille en or. Non. Attends.
C'est à la maison.
Notre belle famille.
Non, c'est notre belle famille. Hein.
Amour, gloire et beauté.
Le problème, c'est que je pensais à une autre. Alors bon, je peux peut-être vous l'accorder quand même.
Amour, gloire.
Il est vraiment
l'homme de l'Atlantide.
L'homme de l'Atlantide où il est le rôle titre.
Ah, ouais, mais dans notre belle famille. Ouais,
j'aurais dû dire rôle titre. Alors ouais. Donc j'ai annulé la question.
J'ai quand même l'impression que la connexion internet elle marche
bien. Mais j'ai gagné.
Je l'ai dit avant toi.
Non, mais là, moi je pense.
Mais j'ai gagné là, j'ai dit l'homme de l'Atlantide.
Ouais, je pensais à l'homme de l'Atlantide.
Mais personne l'a regardé cette série, Fred, arrêtons un peu.
Mais j'ai mal posé la question.
Mais bien sûr que si, il nageait et tout ça tout le temps.
L'homme de l'Atlantide, c'est les mains palmées, les doigts palmés, c'est quand même mythique.
Mais attends, notre belle famille, c'est quand même un générique avec des montagnes russes, c'est génial.
Je connais un paquet de basketteurs qui ont les mains palmées.
Bon, je vais donner le point à Fred parce que sinon j'ai l'impression qu'il va avoir du mal à exister dans ce quiz spécial Dallas. Quel joueur détient le record du nombre de passes décisives?
Derek Harper.
Avec la franchise des Mavericks, c'est Derek Harper. Absolument, 5111 passes dans les années 80 et 90.
Autres, il y a lui, il a le steals et assists et tout le reste, c'est Nowitzki.
Voilà, exactement. Bravo, Steve. Maillot retiré, numéro
31.
12. Des Dallas Mavericks. Donc, ça fait un point pour Steve. Enfin, tu démarres ton quiz.
Oui, bah quand c'est du basket, tu peux démarrer.
C'est du basket. Qui est le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal?
Patrick Dallas. Moi, je tentais un jeu de mots éclaté.
Du Sénégal.
Ouais.
Boniface Ndong.
Ce n'est plus Boniface Ndong qui a été remplacé.
Ndiaye.
En basket.
En basket.
Mata Ndiaye.
Non. Alors réfléchissez, c'est un spécial Dallas.
Oui, bah c'est un mec qui a joué à Dallas.
Exactement.
Un Africain qui a joué à Dallas.
Ndong.
Lurdeng.
Non. Tu vas trouver, vous allez trouver. C'est un joueur dont je vous ai déjà parlé parce que totalement atypique que j'ai. Que...
Ah, c'est Dessanaga Diop.
Exactement.
Ah oui.
Dessanaga Diop, oh, le bon. Pivot de, des oh, Mavericks. Bon. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine oui. d'années. Hein, 2 points pour Steve, 2 points pour Sacha et 1 point pour l'homme de l'Atlantide qui est au fond des océans et qui a du mal à participer à ce débat. Ça va Fred, tout se passe bien?
Ça se passe pas trop mal.
Bon, écoute, pas trop mal.
Je vous écoute, c'est cool.
Allez, on continue. Spécial Dallas. À quelle star du R&B a-t-on attribué la déliquescence des Dallas Mavericks promis au titre en 95-96?
Wow. Justin Timberlake?
R. Kelly?
Non. Non.
Star de R&B?
Ouais.
Gene Wine.
Pas connu à l'époque, méga star à l'époque, mais aujourd'hui.
Mario?
J'avais oublié ça.
Brian McKnight.
J'avais oublié McKnight. Même son existence.
Cisco?
Alors, attends, réfléchissez.
Je suis pas sûr que je crois que c'est encore plus récent ce que tu dis.
C'est un rapport avec les Dallas Mavericks, évidemment, puisqu'elle est responsable et non pas il.
Rihanna
Yves,
ah, Cassie.
De la déliquescence
ah,
des Mavericks.
Brandy, parce qu'elle a. Brandy Monica. Monica.
Alia. Ashanti.
Ah, vous allez le trouver peut-être, je pense. Parce qu'elle est responsable
Christina
de quoi ?
Christina Milian.
La séparation entre Jimmy Jackson et Jason Kidd à l'époque, quand j'avais
c'est
les trois.
La bonne histoire,
trois
mais c'est...
qu'ils sortaient ensemble.
C'est la bonne histoire, mais c'est pas la bonne chanteuse.
Faith Evans.
Non. Ah, c'est pas Brandy.
Non.
C'est
Brandy, Monica, Ashanti, Christina Milian.
Ouais, j'ai des bonnes réponses. Les initiales,
TB.
Tony Braxton.
Exceptionnel.
Ah, bravo.
Elle, Stephen, bravo. Bravo.
Tony Braxton.
Ah, on a sorti tout le monde sauf elle, ouais. C'est vraiment.
Il avait aussi Fred. Donc, selon la légende, ouais. Elle serait passée du lit de Jim Jackson à celui de Jason Kidd, ouais. Et ça aurait foutu la saison des Mavs en l'air. Mais Jason Kidd avait démenti l'information, affirmant que c'était une fake news.
Ouais, enfin, Tony Braxton, je suis pas sûr qu'il faille démentir. Hein,
mais ça, tu mets ça au lobe.
Parfois, il faut assumer.
Alors, Steve prend la main. Là, vous allez écouter une archive et vous allez me dire de quoi il s'agit. Une archive sonore.
De quoi ou de qui?
De quoi s'agit-il?
Top Gun. Maverick.
Non.
Chuck Norris. Walker Texas Ranger.
Exceptionnel. Sacha, bravo. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue.
Les bruitages tout pourris, c'est pas.
C'est les bruitages tout pourris qu'il fallait reconnaître. Donc bravo Sacha, puisque tu as été très vif.
Walker Texas Rangers.
C'était une compile des meilleurs moments de Walker Texas Rangers. Il n'y a pas une réplique.
Je veux voir les scènes, moi.
Et il est magnifique ce quiz, là.
Vraiment Walker magnifique. Texas Rangers, dont l'intrigue se déroule à Dallas, ouais. Fred. Je vous ai annoncé un spécial Dallas.
Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est magnifique, ouais. S'il n'y avait pas d'ironie.
C'était du premier degré. Très bien. Alors, qui a déclaré « Luca n'a jamais suggéré, demandé, exigé ou discuté de changement dans la liste des joueurs »
Mark Cuban,
au mois de janvier. Ouais. Donc, là aussi, mettant fin aux rumeurs comme quoi il mettait la pression sur la direction des Mavericks. On y croit ou on n'y croit pas?
Moi, j'y crois. Parce qu'en fait, on laissait sous-entendre que c'était Luca qui s'est dit à la trade deadline, il faut faire quelque chose, et que c'est lui qui avait mis la pression pour récupérer Kyrie. Mais finalement, non.
Il reste à la place. Exactement. Donc, ça fait un 4e point pour Steve, 3 pour Sacha, grâce à Walker Texas Rangers, et 1 pour Fred. Dans quelle ville évoluent les Dallas Cowboys?
Dallas.
Ben non.
Fort Knox.
Non.
Fort Worth.
Oui, c'est la banlieue de Dallas, mais c'est pas la bonne ville. Pensez au stade. Où est-ce qu'il a été construit ce stade de folie là? Il y a des combats de boxe aussi qui sont organisés régulièrement, mais c'est une petite ville. Hein. Une petite ville. Mais
Austin.
Non. Vous l'avez pas?
Non.
C'est la première.
Wellington.
Comment tu dis?
Wellington. Darlington.
Wellington. Carlington.
Arlington.
Arlington, excellent. Wellington. Bravo Steve. Bravo, t'es allé chercher Arlington, exactement. Charade.
Ah ouais. Ah.
Charade, prénom. Mon premier est l'esthéticienne des bronzés. Mon second...
Didier Tomé.
Non. Pas mal, bonne tentative. Mon second indique le conditionnel en anglais. Je vous la refais. Mon premier est l'esthéticienne des bronzés. Les bronzés font du ski, d'ailleurs. Mon second indique le conditionnel en anglais.
Ah, c'est bon, j'ai trouvé.
C'est Christiane, l'esthéticienne, c'est Christiane Wood.
Je vous avez annoncé des nouveautés.
Wood, W-O-U-L-D.
Wood, ah ouais. Et oui, le conditionnel en anglais, Wood. Oh, Christian Wood, exceptionnel. Donc, Montois a joué 12 minutes pour 6 points, 2 passes, 1 rebond et 1 contre la nuit dernière.
Gros match.
Sortie de banc contre Indiana. Non, mais stats catastrophique.
Il est sorti du bois.
Il est sorti du bois, mais il va y retourner rapidement.
Oui, la forêt,
il va y retourner, je crois.
Alors, donc là, bah, comme d'habitude, on aborde la dernière question avec un Stephen Brun en tête devant Sacha et Fred. Les Mavs, avant d'être champions, ont disputé cette finale en 2006 contre Miami. Vous allez me donner tour à tour un joueur de l'effectif de Miami en finale.
Ah, de Miami.
De Miami. Ah, sinon, Dallas, c'était pour toi, c'était trop facile. Donc, qui a joué la finale. Hein. Ils ne sont pas très nombreux. Il y a 11 noms. C'est Fred qui commence. Miami 2006.
Bleu Brown ?
Non.
Non, Miami 2006, je te laisse une deuxième chance.
Ah, 2006, Wade, pardon. Wade.
Voilà, merci quand même. Allez, Fred, c'est bon, un point. Sacha ?
Shaquille O'Neal.
Shaquille O'Neal, c'est bon. À toi, Steve.
Je vais tenter, cette équipe-là, je vais tenter Joel Anthony.
Joel Anthony, alors Joel Anthony, c'est pas bon. Et tu n'auras pas de deuxième chance pour donner du suspense.
Ah bien. Je crois que c'est à une d'après.
6 points pour Steve, 4 pour Sacha, 2 pour Fred. C'est à Fred, il y a encore pas beaucoup de... il y a encore beaucoup de noms très connus. Hein. Fred, à toi.
The Morning.
C'est bon. 3 points pour Fred. Sacha.
Je vais dire Eddie Jones.
Eddie Jones. Eddie Jones, c'est le sélectionneur de l'équipe d'Australie de rugby, c'est pas bon.
Ah non.
Eddie Jones, c'est pas bon. Alors attention.
Tu sais que je crois que j'ai tous les autres en plus.
En plus, il y en a
pas un.
Pas un
blanc shooter.
Non, hein, franchement, vu la réponse.
Moi, j'en ai un, c'est pour moi.
Alors, c'est à toi, Fred, tu peux encore gagner le quiz. Je t'écoute.
Udonis Haslem.
Udonis Haslem, ah, excellent, bravo.
En vrai.
Alors, il y en a trop en vrai. Ouais. En vrai, il y a encore des méga stars à trouver.
Il y a Payton.
Après, j'avais une question. Il y avait Gary Payton ?
Il y a Gary Payton, je te l'accorde.
Attendez,
c'est pas fini, hein. Fred arrive à 5 points et Steve est à 6.
Moi, je peux en donner à Fred si tu veux.
Non, Fred, continue.
Je
peux te donner un indice.
Un gros port qui tire à 3 points et qui était à Boston avant.
Un indice, c'est surtout que sur la réponse, sur la série qu'a trouvé Sacha tout à l'heure, t'as un énorme indice.
Ah bah oui. T'es à Boston.
Atlantide.
Non, pas Atlantide.
Tu peux l'appeler Tonio si c'est ton pote. Tu peux l'appeler Tonio, il aime bien marcher. Tonio,
Walker.
Antoine Walker, mais bon, ça suffira pas pour gagner le quiz, Fred.
T'as Dorrell Wright après ?
Non. Alors, il restait quand même des joueurs Jason Williams.
Ouais.
White Chocolate.
Il restait Jason Capono, que vous auriez pu
trouver. Ah oui, gagner concours à 3, incroyable.
Après, un peu plus dur, James Posey.
Ouais.
C'est Shannon Anderson.
James, il est souvent sur canapé, gros.
Et Michael Doléac.
Il est Posey, peinard.
Michael Doléac, vrai joueur.
Victoire de Stephen, bravo. Et à la semaine prochaine.
Ciao.
Bravo.
Bye.
RMC Basket Time.